André Lichtenberger, La bande des hyènes. Ce n'est pas pour te faire de la peine, mon chéri, mais tu ne me diras pas que, comme chameau, les cousins patouillards, ils sont pas un peu là. Pour être formulé en termes d'une distinction approximative, il n'en faut pas moins convenir que cette appréciation, jetée d'une lippe mutine et boudeuse, gentiment avivé de carmin, sous un nez légèrement en pied de marmite, n'est pas dénué de fondement. Quand Jean-Louis Febvre, artiste peintre moins en espérance, et Joséphine Martinet, dite Fifine, dont la frimousse se retrouvait tantôt en nymphe, tantôt en trottin, sur toutes les œuvres perpétrées depuis un an par ce jeune maître, mirent légitimement leur destinée devant un maire et le curé, il ne s'attendait pas à ce que cet événement déchaînât l'enthousiasme de leurs proches, une avalanche de présents nuptiaux et un écrasement élégant de foule à Saint-Augustin. Si peut-être un prince était le père de la blonde Fifine, il avait négligé de se faire connaître, et depuis belle lurette, sa mère, du moins cet enfant voulait l'espérer, goûtait dans un monde meilleur des joies plus élevées que celle qu'elle trouvait dans la loge où elle s'était écoulée la deuxième partie de son existence, moins accidentée que la première. Quant au rapin, il y avait longtemps qu'il avait perdu ses parents. À l'occasion de son hymen, un oncle lui envoya de province une bénédiction plutôt vague, et une vieille tante lui fit tenir une douzaine de torchons. Quant au cousin patouillard, ils bornèrent leurs félicitations à une lettre brève contenant ce vœu platonique. « Si jamais un bon vent t'amène du côté de Sainte-Brigitte, nous serons enchantés de faire connaissance de ta petite femme. » De la part d'un ancien huissier retiré de Paris en province, après une pelote amassée dans des conditions insuffisamment éclaircies, le laconisme de cette invitation n'était pas fait pour surprendre. Au surplus, les relations antérieures de Jean-Louis avec ses cousins s'étaient bornées à des visites de nouvel an d'un rapport infime. Un cornet de chocolat poudreux, un billet de banque de format modeste, telle était la somme de leur munificence annuelle. Aussi ne fût-ce point l'intérêt, non plus que l'ardeur revivifiée d'un sentiment de famille indéfectible, qui détermina l'apparition du jeune couple dans les parages qu'ils se proposaient nullement de visiter. Si la bande de rapins dont ils faisaient partie décida en un soir de bamboche d'y effectuer une villégiature, le point de départ de cette migration fut simplement cet avis paru dans un journal du matin: Sainte-Brigitte, hôtel de l'océan, plage, confort, installation modeste, convenant aux artistes. Pour une fois, la réalité correspondait rigoureusement à l'annonce. La modestie de l'installation, et notamment la frugalité des menus, dépassaient toute imagination. Sans la ressource des charcuteries locales et des maisons de thé, la famine n'eût point parvenu à décimer les pensionnaires de l'établissement. Spécialement ce grand diable de Pierre Lardoie et son ami la jeune Dolly, aux belles dents, ne pouvait, en rentrant du bain vers le coup de midi, passer devant les hôtels cossus d'où montaient d'appétissantes odeurs de mangeaille, sans émettre les vœux exaspérés et les malédictions de leur fringale. Un jour, comme pour distraire leur imagination, ils échafaudaient à l'envi, tout en marchant, de succulents menus qui faisait crier grâce à l'auditoire. Pierre s'arrêta soudain devant une villa de bonne apparence, d'où sortait un triporteur de la grande maison d'alimentation du lieu, et il clama: « Oh, ne me targuez pas d'ambition excessive, que les bourgeois qui siègent en ce temple m'invitent un jour à partager leurs fricots. Oh, je suis prêt à en échanger, à sacrifier toutes mes chances d'entrer à l'Académie des Beaux-Arts. » Et Jean-Louis eut un coup d'œil machinal vers le nom inscrit sur la grille en lettres d'or. Elle s'appelait simplement « Notre idéal ».« Tiens !» s'exclama-t-il. « Mais c'est des cousins à moi qui doivent demeurer là-dedans. Alors tu as des cousins qui habitent un palais et tu ne nous fais pas inviter. » La folie d'une telle prétention arracha à l'artiste famélique un sourire d'ironie. « Pour faire inviter, oh là là !» Mais à l'issue du déjeuner spécialement frugal, les dimensions de l'unique côtelette individuelle égalaient à peu près celles de la sardine à l'huile initiale. Il fut décidé à l'unanimité que les gens Louis Fabre ne sauraient se dispenser d'accomplir un devoir élémentaire. La famille, n'est-ce pas, c'est la famille. Dûment rasés, ils cédèrent. D'où la visite susdite. Il en fut rendu compte au repas du soir, à qui ainsi elle fournit le plat de résistance. Oh, l'accueil des deux vieux retranchés dans leur salon, doré et hideux. Voulez-vous que je vous dise? Son oncle Placide, il a l'air d'un rat, et quant à la tante Eugénie, c'est le portrait d'une grenouille. Ils ont reçu comme s'ils avaient peur qu'à rester sur leur chaise on en use le velours. Vous savez, pourtant on était là à 5 heures, ils nous ont pas offert une tasse de thé, pas un verre d'eau. On essayait de causer, on regardait les tableaux, les objets d'art, oh, quel art! Rien ne venait. Et mes enfants, quelle conversation! La lecture des journaux, faits divers et feuilletons, voilà toute leur peinture. Avec l'avarice, oh, les chabots, une seule passion, la peur, et surtout une double peur, celle des voleurs et celle des gendarmes. Je me figure que, quand il était huissier, le père Placide a dû s'envoyer quelques petites combines. Il n'était pas d'une parfaite correction. Alors, dès qu'il est question de police, ça réveille chez lui des souvenirs, des appréhensions. Enfin, après que 2 ou 3 mois, fois, la conversation était tombée à plat, il a bien fallu se lever. Et en s'en allant, on les sentait derrière soi qui nous suivaient pour protéger l'argenterie. Et ici Fifine, qui jusqu'ici avait conté l'histoire, mi-rieuse, mi-armoyante, sentit sa voix lui manquer et se moucha. Oh, quand on est une honnête femme, c'est bien dur. Ce spectacle plongea l'excellent Jean-Louis dans un véritable accès de rage. Il aimait tendrement sa petite épouse, ressentait amèrement l'affront qu'il venait de lui être infligé. Et soudain, sa colère ayant besoin de se concentrer, il avisa cette brute de Pierre Lardoie, qui précisément se tordait, et lui montra le poing. « Oh, t'avais bien besoin de nous envoyer nous casser le nez. Eh bien, puisque tu nous as valu l'affront, il s'agit maintenant que tu nous procures la vengeance. » Vengeance. Un rugissement d'approbation réunit tous les Montparnasse. À l'envi, couteaux et fourchettes martelèrent les tables, ébranlèrent les verres, jusqu'à faire surgir à la porte la silhouette angoissée de l'hôtelière. À l'unanimité, cette constatation réunit les suffrages. En la personne de 2 artistes charmants, l'art français vient d'être cruellement outragé. Pierre, tu n'es qu'un crétin si tu ne tires pas d'une telle insulte une vengeance proportionnée à la bassesse. La fécondité d'imagination de Pierre Lardoie jouissait à bon droit d'une large popularité dans les pavarages de la rotonde. On se répétait à l'endroit d'aubergistes nocifs ou de fournisseurs exigeants des blagues truculentes assez savoureusement renouvelées de burgers. Bourrant sa pipe, il haussa les épaules. « c'est bon, vous frappez pas, on va voir. » Et les coudes sur la table, on se mit à échanger des idées. À l'envi, cette brave douille, le bon Jacques, le géant noir norvégien Ericsson, s'étonnèrent de pâles propositions dédaigneusement évincées. « Alors, trouve donc mieux !» et à la fin un éclair traversa l'œil aigu de Pierre, et il proféra avec gravité « Voyons voir, récapitulons. Tu dis des grigous riches à vous dégoûter et gourmands. Jadis, le dimanche, leur déjeuner te laissait d'inoubliables souvenirs. Bon, ça, mais ont-ils gardé leur cuisinière? Justement, tu l'as reconnue qui passait au jardin. Détail intéressant. Et tu dis qu'ils sont bêtes, ben, très bêtes, autant qu'on peut désirer, et aussi très poltrons. Oh, tu parles. Tiens, dans notre entretien, la seule chose qui les ait fait sortir de leur apathie, ça a été le récit des derniers exploits de cette bande qui, en ce moment, écume les hôtels et les casinos. La bande des hyènes, comme l'appelait l'autre jour théâtralement la Gazette de Sainte-Brigitte. Eh bien alors, Pierre Lardoie promenait sur l'assistance un regard victorieux. Eh bien alors, je crois avoir un plan à vous proposer. Tu maintiens, mon vieux Jean-Louis, que tu brûles du désir de représailles. Ils ont insulté Fifine, parfait. Je veux dire, c'est abominable. Mes amis, je vais vous développer mon projet d'attaque. Mais une telle entreprise ne saurait être exposée dans une salle d'hôtel. Filons. On alla s'étendre sur la plage. Les bouches et les oreilles se rapprochèrent. D'abord on se récria, puis ce furent des exclamations, des haussements d'épaules, des fous rires. Mais ça prendra jamais. Oh bon, qu'est-ce qu'on sait? Et puis, qu'est-ce qu'on risque? As-tu vu, ma bonne, les derniers exploits de la bande des hyènes? Ma parole, c'est Lascar, se joue-t-il assez frottement de la police? Si on ne se figurait les risques que court la société, il y aurait vraiment de quoi se tordre. Mais pensez que peut-être, tous les jours, on frôle un de ces misérables. L'impéritie des gens en place est inconcevable. Tiens, là, cela est de la porte du jardin. Regarde donc, bonne. Quoi encore ces petits rasoirs? En vérité, ils abusent. Toc, toc, à la porte, la silhouette massive de Sylvie surgit dans l'embrasure. Monsieur et madame, c'est les mêmes comme l'autre jour. Bon, vous ne leur avez pas dit que nous étions là. J'ai dit comme ça que j'allais voir, mais le monsieur m'a regardé dans les yeux d'un drôle d'air. Et il m'a dit, vous informerez monsieur et madame que ce que nous avons à leur dire intéresse, oui, comment qu'il a dit ce mot, enfin, intéresse, oui, c'est ça, intéresse leur sécurité. L'ancien huissier et sa moitié s'entre-regardent. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans doute un truc pour forcer la porte. Pourtant, qu'est-ce que ça coûte d'essayer? Enfin, il est tout de même plus prudent de les recevoir. Si s'imagine qu'on ne saura pas les mettre dehors, faites monter. Jean-Louis et Fifine sont introduits. Si les vieux sont en défiance, ils ont eux-mêmes un air figé, emprunté, solennel. Ah, c'est vous, mon neveu. Vous avez témoigné le désir de nous revoir. Oui, oui, peut-être serez-vous surpris qu'après votre aimable accueil de l'autre jour, nous récidivions si tôt. Croyez bien, cher oncle, chère tante, que n'aurions pas pris cette liberté et nous ne nous sentirions le devoir de nous mettre en garde devant le danger qui vous menace. Un danger? Les yeux des deux vieux s'arrondissent. Ils glissent un regard sur leur journal à demi déplié, où tirent les yeux la manchette sensationnelle des derniers exploits de la bande des hyènes. Essayez-vous, mes enfants, je vous écoute. Cependant que Jean-Louis éclaircit sa voix, l'homme ajoute d'un accent qui s'efforce en vain d'être gouailleur. Vous me faites trembler, ce serait pourtant pas la bande des hyènes. Le jeune homme et la jeune femme échangent un regard et d'une voix creuse, morne, comme malgré lui, les yeux au parquet, Jean-Louis murmure « Oh, vous savez ?» Et puis il se tait comme s'il n'osait en dire davantage. Devant ce silence, les deux époux sentent quelque chose se glacer dans leur poitrine. Ils bégayent en cœur « Mais parlez !» Le jeune homme reprend d'une voix entrecoupée. Et la modestie de nos ressources nous a obligés à descendre dans un hôtel fréquenté par une clientèle assez mélangée. Et au hasard d'une table d'hôte, nous avons échangé quelques mots avec plusieurs jeunes gens, dont un certain laisser-aller dans les propos et la tenue donnait à penser qu'ils appartenaient peut-être au monde des artistes. Des allusions singulières, des coups d'œil étranges, nous causaient ça et là quelques malaises. Comment néanmoins aurions-nous soupçonné la vérité? C'est hier seulement que nous avons pu nous rendre compte dans quel milieu terrifiant nous avons fait tomber notre mauvaise fortune. Vous ne voulez pas dire... Le jeune homme ferme les yeux avec accablement. La jeune femme cache sa figure dans ses mains. Un silence. Écoutez-moi, mon oncle, ne me jugez pas trop sévèrement. Notre devoir eût sans doute été de rompre, de dénoncer immédiatement les misérables. J'ai été arrêté par une invincible répugnance, la vilenie d'une délation et une crainte aussi de mêler la police à mes affaires. Comme mu par un ressort, le vieil homme se soulève. Oh, tu as eu mille fois raison. Jamais, mes enfants, retenez bien cette parole, jamais vous ne vous méfierez assez de cette ingérence. Merci, mon oncle, vous me soulagez. Je sens que vous excuserez notre faiblesse. Elle est allée, vous l'avouerez, jusqu'à écouter passivement s'échafauder les projets de la bande sinistre. Ah, je puis vous garantir que vous entendrez bientôt parler d'elle. Un de ces soirs, une terrible surprise attend dans l'antre de Plutus les fidèles de la roulette et du baccarat. Les deux vieux halètent, mi de terreur, mi de jouissance. Et le jeune homme poursuit d'une voix sans cesse plus lugubre. Mais le hasard, mon cousin, nous réservait une révélation plus tragique. Hier soir, nos commensaux discutaient entre eux un certain nombre d'affaires graves, de menus saisis, pardonnez-moi ça leur expression, à opérer dans quelques villas, j'ose à peine vous dire le nom de celle sur laquelle allait se fixer leur choix. M. Batouillard, un râle d'agonisant. La nôtre ? Avec noblesse, Jean-Louis rejette la tête en arrière, pose la main sur son cœur. Et jusque-là, nous avions pu demeurer sourds à la voix de l'honneur. Mais devant la menace d'un tel attentat, je suis accouru vous prévenir. Vous avez le temps de prendre vos mesures, de vous barricader, de fuir, de prévenir la police. Atterrés, éperdus, les deux vieux époux tordent leurs mains. Voyons, mon enfant, que nous conseillez-vous? Ces gens-là sont-ils vraiment si endurcis? N'y a-t-il pas un moyen? Alors, voici que poursuit la voix de Jean-Louis. Pour achever une douloureuse mission, je dois vous indiquer celui que je puis vous offrir, mais elle est telle qu'en vérité j'hésite. Parlez, mon neveu, parlez. N'oubliez pas que votre père et moi, nous avons passé ensemble quelques-uns des plus beaux jours de notre jeunesse. Eh bien, soit... Je vous avouerai donc que, dans mon saisissement devant l'effroyable révélation, je n'ai pu contenir mon indignation. Je me suis levé, Fifine aussi, et quelques risques que nous ayons pu courir, nous avons tout haut confessé notre parenté. J'ai dit à ces malheureux qu'on exagérait votre opulence, et que loin de posséder les richesses qu'on imaginait, vous étiez vous-même plutôt une victime de la société. Que vous professiez une horreur particulière contre ces abus, ces forces répressives, que votre table était votre luxe unique, grâce à la seule excellence d'un cordon bleu incomparable, faisant croire chez vous à une profusion tout à fait étrangère à votre train de maison. Est-ce mon éloquence? Est-ce plutôt celle de Fifine? Pauvre petite, si vous l'aviez vue pleurer! Le fait est qu'autour de nous, nous avons eu le sentiment d'une hésitation, d'un ébranlement. La bande des hyènes, vous le savez, met de la fantaisie dans ses exploits. Au lendemain de ses coups les plus audacieux, n'a-t-elle pas adressé à la veuve d'un pêcheur un chèque de 500 francs? Ayant multiplié ses questions à vingt endroits, le chef, à l'instant, s'est recueilli et puis... il a prononcé « Écoute, mon petit, tu dis que tes vieux ont l'horreur des flics. Au fait, un huissier, c'est bien une espèce de voleur. Nous allons donc les traiter en copains. Je leur laisse une chance. Va leur dire comme ça qu'ils mettent les petits plats dans les grands et qu'ils offrent à la bande des hyènes une gueuleton à la hauteur. Mais il y a dans quoi, eh bien, c'est chez le voisin qu'on ira ramasser la galette. Tel est, mon oncle, le sinistre message dont je n'ai pu refuser de m'acquitter. Voyons, mon garçon, vous ne voulez pas dire que... Mais c'est fou, recevoir ainsi une bande d'aigrefins, de cambrioleurs, vous fichez de nous. Tu ne prétends pas. » Jean-Louis se redresse dans un sursaut de fierté douloureuse. « Arrêtez, mon oncle. J'ai cru devoir remplir un devoir pénible, je n'insiste pas. Je ne prétends à rien. Simplement, je vous dis ceci, après-demain, à 12h30, permettez que je prenne l'heure de votre pendule. Après-demain, à 12h30, vous entendrez sonner à votre porte. Et sous la conduite de vos serviteurs, je viderai la coupe jusqu'à la lie. La bande des hyènes, au grand complet, viendra demander votre hospitalité. Nous compris, elle se composera de 7 personnes appartenant aux deux sexes. Cette hospitalité, ou bien vous la lui accorderez, alors je puis vous garantir qu'à part un solide appétit et peut-être une certaine fantaisie dans les propos et les manières, vous n'aurez rien à redouter. Ou bien vous la lui refuserez, et dans ce cas, sans doute, se repliera-t-elle en bon ordre, mais quant à l'avenir, il arrivera ce qui arrivera. Fifine et moi, nous en lavons les mains. Voilà, j'ai dit. » Le jeune homme se lève, Fifine esquisse une révérence. Ils ont disparu. « Et maintenant, honneur à nos hôtes !» D'une voix tonnante, le grand frisé de Montparnasse, le chef de la bande, ayant rempli sa coupe de champagne et un peu éméché, la brandissant, rend hommage à l'accueil qui est fait à sa compagnie. « Vive les patouillards !» C'est qu'en effet, quel bandit, si endurci put-il être, résisterait à l'influence lénifiante du festin qui vient d'être servi. Ah, certes, il fut âpre, le combat qui se livra, sinon dans la conscience du vieux couple, au moins entre sa frousse et sa ladrerie. Faire ses mal et prendre la fuite, invoquer le secours de la police. Entre ces deux résolutions, les hésitations furent longues. Mais si l'on fuyait, où fuir? Se réfugier à Paris, laisser le logis à la merci des bandits? L'avarice sacrée protestait contre un tel sacrifice. Appeler les flics, oh! Une répugnance ancrée au moelle se révoltait chez les deux complices à l'idée d'introduire dans le repère une présence indiscrète, redoutée, dont il était impossible de prévoir où s'arrêteraient ses investigations. Et d'autre part, comment, sans un regret honteux, laisser échapper l'occasion de voir de près ces bandits, ces contempteurs hardis de la société moderne? Est-il vision plus passionnante que celle des bêtes de la jungle? Contempler face à face l'armée du crime, quelle terreur, mais aussi quelle prodigieuse excitation! Et c'est pourquoi, après 24 heures de poignantes hésitations, d'un commun accord, les deux époux résolurent de tenir le coup. Un couple de homards monstrueux, une dinde farcie et truffée, un foie gras enrobé de gelée, Bordeaux et Champagne, toutes les ressources du cru ont été mises à contribution. On a expliqué le gala au personnel stupéfait. « Oh, nous allons recevoir une compagnie d'artistes, les meilleurs amis de nos neveux. » Si endurcis que soient ses membres dans la pratique du crime, n'y a-t-il pas un léger battement de cœur dans la bande des hyènes quand le mercredi 16 août, en désarroi, à 12h30 tapant, elle a franchi la grille de mon idéal, traversé le jardinet, tiré la sonnette de la porte close? Sans doute, rien de suspect ne se dessine. Mais au fond, n'est-on pas allé un peu fort? va-t-on tomber entre les mains d'une bande d'argousins, être accueilli à coups de fusil ou bien par la projection de légumes et liquides d'un caractère domestique ou ménager? Avant de franchir le seuil redoutable, il y a presque une altercation. Bon vieux, puisque c'est tes parents, montre-nous le chemin. Oh non, par exemple, c'est toi qui nous as fourrés dans la bagarre. Passe le premier. Zut, a crié Fifine, c'est moi qui ouvrirai la marche. Et d'une poigne décidée, en effet, elle a tiré le cordon magique. Un silence. Puis un pas lourd se fait entendre dans le corridor. Une maritorne est surgie en tablier bleu avec un sourire bovin. Si messieurs, mesdames veulent bien montrer. Elle leur montre la voie. Et les voilà, les visiteurs redoutés, qui un à un pénètrent dans le salon poussiéreux, où à leur apparition les deux vieux se soulèvent, le chef branlant, la lèvre baveuse, le teint verdâtre. Mesdames, messieurs, nous sommes bien touchés, les amis de nos amis. Ayant recouvré son aplomb, Jean-Louis fait les présentations. Monsieur Dumas, dit le grand frisé de Montparnasse. Monsieur Passebal, le fameux vice-roi des gangsters. La môme Chipette, dit aussi la vipère. À chaque nom, le poil hérissé, frissonnant de terreur et de délices, le patron et la patronne exécutent de petits plongeons, baissent les yeux et puis osent, en biais, dévisager les monstres. Les présentations terminées, ayant recouvré sa liberté d'esprit, le grand frisé relève sa moustache d'un geste aventureux. Et maintenant, mon cher patron, où c'est-il qu'on bouffe? Ah oui, ici, messieurs, si vous voulez bien, mesdames. On a passé dans la salle à manger, éclatante de cristaux et d'argenterie. Et cela a été, dans son ordonnance abondante et somptueuse, le repas pantagruélique. En face des victuailles qui s'accumulent, il y a eu d'abord un moment de gêne, une sorte de peur, et puis on s'est jeté férocement sur les mets. Au fur et à mesure que se succédaient les plats succulents et les vins généreux, voici qu'au jeu des mâchoires, les langues se sont déliées et les yeux attendris. Avec quelle complaisance ont été évoqués d'émouvants souvenirs, des exploits fameux. D'un air connaisseur, on soupesait les couverts, on se faisait passer les plats d'argent, on lorgnait les tableaux. Vous avez, madame, de bien jolis tas de bijoux. Oh, cette pendule-là, je vous la garantis ancienne. T'en souviens-tu, mon enfant? Ces deux candélabres valent ceux que nous avons tant admirés au château de Prévieux. Comment ne pas frissonner à certains regards significatifs qui s'échangent? Visiblement, des convoitises s'agitent parmi ces hommes sans scrupules placés en face de telles richesses. Heureusement que l'honneur des brigands est parfois plus scrupuleux que celui des honnêtes gens. Au dessert, levant encore une fois son verre, le grand frisé a confirmé d'une voix pâteuse l'engagement solennel. Monsieur, madame, soyez heureux de posséder des neveux admirables et rendez-leur grâce. Sans leur chaleureuse intervention, dans 2 jours, peut-être la dureté des temps nous eût contraints à nous rendre une visite moins agréable. Pour l'amour d'eux, nous vous présentons nos hommages et allons prendre congé de vous. Souffrez qu'une dernière fois nous buvions à votre santé, et en échange recevez de nous le serment le plus précieux que nous puissions vous faire, celui que vous ne vous reverrez jamais plus. On prend le café, les liqueurs sont bues, à la queue-leu-leu, la bande disparaît après les saluts suprêmes et un baise-main. Brisés, les deux vieux retombent sur leur siège. Pourtant, ils se soulèvent, regardent curieusement derrière la vitre défiler et sortir le cortège de leurs invités. Il y a de quoi défrayer durant des jours et des jours de longs entretiens. Avec quel émoi sont bientôt relevés dans la gazette locale les nouveaux exploits par lesquels ne tarde pas à se signaler la bande forcenée. Au fond, c'est avec une hypocrisie pleine de douceur que sont proférées les flétrissures que commandent leurs méfaits. De tels ravages, les deux vieux ne se sentent-ils pas un peu complices? Quand le grand frisé est arrêté et son portrait publié, il s'étonne un instant de ne pas le reconnaître. Mais bon, l'art de se grimer n'est-il pas l'ABC du métier? Avec angoisse, ils attendent le moment où le criminel comparaîtra devant ses juges. Et quel soulagement un matin! Bobonne, j'ai une surprise à t'annoncer. Il s'est évadé. L'hiver suivant, il y eut une épidémie de grippe. Le premier, Placide Patouillard, exhala son âme. À une semaine d'intervalle, son épouse fidèle le suivit dans la tombe. En ces âpres jours de février, la crise mettait à dures épreuves les carrières dites libérales. En vain on tirait la langue et l'on se serrait la ceinture à Montparnasse. Timbrée de Sainte-Brigitte, une enveloppe chargée ce matin-là fut remise à Jean-Louis, grelottant, enfermé dans son vieux pardessus, dans la glacière de son atelier vide. En rentrant du marché avec son cabas, Fifine trouva son mari hébété. Il lui tendit une lettre. Elle portait en haut, en caractère imprimé de la première page, « Étude de maître Groschamp, notaire ». Il était ainsi libellé. « Monsieur, j'ai l'honneur de vous informer que monsieur et madame Patouillard, vos parents, sont décédés à peu de jours d'intervalle. Selon un acte établi par moi, conformément à leur volonté, il y a 4 mois et déposé en mon étude, ils vous ont institué leur légataire universel. Je crois que vous êtes agréable en vous informant que, selon toute vraisemblance, prélever la dîme de l'État, l'actif de cette succession atteindra un minimum de 700 000 à 800 000 francs, non comprise la valeur de l'immeuble. « Oh mince !» s'écria Fifine. Et tous deux, quelques secondes, demeurèrent muets. Après quoi, ramassant son cabas qu'elle avait laissé tomber, elle articula « Tout de même, mon petit, tu trouves pas que c'est un peu fort de café? Tant qu'on s'est conduit presque comme des honnêtes gens, on a été dans la mouise. Mais parce qu'un jour on a été pris pour des cambrioleurs, on a conduit un capitaliste. » À quoi Jean-Louis répondit du ton de la sagesse avertie. « Apprends, ma petite, que c'est toujours comme ça, que se sont bâties les grandes fortunes. »